Reine du pouvoir, une émission présentée par Julien Crepin sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Graines du Pouvoir sur Radio Campus. Pour clore cette grise matinée printanière, nous allons nous intéresser aux semences, ces petites graines qui sont à la base de la vie, végétale, animale et humaine. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les lois qui cadenassent la circulation et la culture de ces semences. En Europe, le marché des semences est au centre des préoccupations depuis près d'un demi-siècle. De nombreuses règles ont fleuri et ont déterminé la manière de fonctionner pour le monde paysan. Je m'explique, depuis les années 60, pour vendre des semences, celles-ci doivent être inscrites dans une liste, le catalogue européen des espèces et variétés végétales. Pour être inscrites à ce catalogue, ces semences doivent passer des tests, DHS, distinction, homogénéité et stabilité, nous y reviendrons. Ces tests servent de filtre afin de favoriser l'amélioration de la matière première de l'agriculture, j'ai nommé les graines, les semences. Avec la productivité en point de mire, l'Europe avance et tant pis pour ceux qui sont petits et qui ne la suivent pas. Sur le vieux continent, les fermes disparaissent chaque jour. C'est un des grands enjeux actuels. L'Union européenne compte encore 13 millions de paysans. Comment les aider à travailler, à produire, alors que la base de leur profession, qui réside dans ces petites graines, sont de plus en plus privatisées. Vous connaissez tous les termes OGM, hybride, mais que représente-t-il vraiment dans notre quotidien? Doit-on lutter, les accepter? C'est ce que nous allons essayer de comprendre durant cette heure ensemble. Les semences sont à la base de notre alimentation. Les fruits, légumes, céréales que nous mangeons quotidiennement sont des graines qui ont germé. Mais notre viande aussi dépend de ces semences, car elles sont aussi à la base de la nourriture fourragère, en d'autres termes des repas de nos animaux. C'est une place centrale qu'occupent donc les graines. Elles permettent aux fermiers et aux semenciers de vivre. Elles nourrissent les humains du monde entier. Mais elles sont surtout les garantes de l'équilibre écologique de notre planète. Donc de ces graines, nous allons parler. Peut-être même qu'on va un peu se disputer. Mais du mieux qu'on peut, on va essayer de vous informer sur une réalité encore fort méconnue. Le sommaire de cette émission. Rencontre à Jean Blou avec Alain Mazure et Bernard Botson. Ils nous parleront du catalogue européen des espèces et variétés végétales. Nous continuerons ensuite la balade par Bruxelles et Namur. On y évoquera la biodiversité dans nos pays avec Andrea Ferrante et Dominique Perrault. Quelle situation pour les fermiers? Serge Perrebaume, un maraîcher ardennais, nous parlera de la condition de vie des paysans. Nous terminerons cette épopée ici, à Bruxelles, dans le quartier européen, où M. Garlich Van Essen nous expliquera la réalité des industries semencières européennes. Alors, pour m'accompagner dans ces récits, trois personnes seront ici en studio. Alors, avec moi maintenant, il y a Ivan Manama. Donc, vous avez travaillé avec l'ONG CEO et vous travaillez maintenant pour Acid Europe à Amsterdam. Donc, vous avez justement travaillé sur toutes ces législations semencières et agricoles. Monsieur Manama, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Alors, Jean-Paul Judson, responsable des affaires publiques de l'ESA, nous rejoindra dans quelques minutes. Il a un peu de retard. Il travaille pour l'European Seeds Association, c'est le lobby bruxellois des grands semenciers et de l'industrie semencière. Et quelques minutes plus tard, M. Philippe Lamberts, coprésident du groupe Vert au Parlement européen, nous rejoindra. Mais sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Je vous parlais tout à l'heure du catalogue européen des espèces et variétés végétales et de ses conditions d'accès. Nous allons faire une première étape dans notre voyage pour nous rendre en Wallonie, et plus précisément à Jean Blou. Nous entendrons dans l'ordre Alain Mazure de la Fédération Wallonne de l'Agriculture et Bernard Botson, professeur de Polytechnie des régions tempérées en sciences agronomiques à l'ULG.
Avant qu'on ne mette au point un catalogue européen, il a existé depuis maintenant des décennies des catalogues nationaux. Et donc le catalogue national, en fait, si je prends le cas de la Belgique, il a été créé probablement, enfin je n'ai plus les dates exactes, mais ça doit remonter certainement aux années 60. Pourquoi a-t-il été créé? Ben, disons pour un peu officialiser, à la fois pour officialiser les différentes variétés de semences qui ont été mises au point dans les différentes espèces, donc que ce soit en céréales, que ce soit en betteraves, que ce soit en pommes de terre, puisqu'on a également la même chose pour les plantes pommes de terre. Mais également, ça a été fait, disons, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, je vais dire, avec les semences officielles. Donc, le fait de pour rentrer au catalogue, il faut d'ailleurs toujours répondre à un certain nombre de critères. Il faut passer un certain nombre d'étapes, un peu comme un étudiant passe des examens, pour que la variété soit admise, qu'on mette en évidence ses qualités agronomiques, ses qualités de rendement, ses qualités, je vais dire, telles qu'elles puissent être mises en production à grande échelle. Et donc, à partir de ce moment-là, quand elle a passé de manière positive ces différentes sélections, elle rentre dans le catalogue. Ce sont les mêmes règles, grosso modo, qui ont été retenues pour le catalogue européen. Et donc, dans ce cas-ci, on parle bien de la filière officielle, c'est-à-dire la production de semences certifiées, qui existe dans tous les États membres, qui existe partout dans le monde. Hein, où, soyons clairs, ça n'existe pas, évidemment pas qu'en Europe, ça existe partout dans le monde.
Compliqué donc d'être certifié, mais comment cette certification s'opère-t-elle? Qu'est-ce qui rend cette sélection aussi stricte? Et surtout, pourquoi avoir des critères aussi élevés? C'est à l'ULG, à Gembloux, que Bernard Botson va éclairer notre lanterne. Rendez-vous pris, nous nous rendons dans les magnifiques bâtiments de la faculté d'agrotechnologie de Gembloux.
Quand la variété a été croisée, ici c'est pour les céréales, il va y avoir des essais qu'on appelle de distinction, d'homogénéité et de stabilité, et des essais de valeur culturelle. Pourquoi est-ce qu'on fait des essais de distinction? En fait, il y a toute une série de caractères au niveau de la plante qui sont là. Pourquoi? Parce que quand le sélectionneur a créé quelque chose, il doit créer une plante qui est totalement différente de tout ce qui existe jusqu'à présent. Et donc là, il y a toute une série de critères extérieurs, je dirais, au niveau de la plante, que l'on va aller observer. Et comme il y a 25 ou 26 critères différents, on voit que chacune des variétés, elle a, pour chacun de ces critères, on va de 0 à 9, de 1 à 9 par exemple, au niveau de lui, que là, on va avoir vraiment une carte d'identité de chacune des variétés. Et il faut que la variété soit distincte des autres. Quand la variété... on va y revenir. Donc là, on va faire en sorte que la variété soit aussi pour les céréales. Ça c'est l'homogénéité. Il faut que tous les individus... Ici, vous voyez, par exemple, vous avez des individus qui sont avec des gros épis. Ça, par exemple, là... Ça ne peut pas être parce que tous les épis doivent être les mêmes. Si vous avez quelque chose qui n'est pas homogène, ça veut dire qu'il y a encore des mélanges dedans et que si l'agriculteur il remultiplie lui-même ces semences-là, il va retrouver des choses qui ne seront plus les mêmes, qui n'auront plus les caractéristiques de la variété. Et on va ressemer les semences d'une année à l'autre pour être sûr qu'on a bien la... Et c'est seulement quand la variété est bien fixée qu'il va y avoir des essais de valeur culturelle et d'utilisation. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller prendre des variétés qui existent sur le marché, les meilleures qui existent sur le marché ici en Belgique, et on va, pendant 2 ans ou 3 ans, ça dépend des espèces, on va aller faire des essais avec les candidats. Et pour que la variété soit inscrite, en fait, il faut qu'on va donner un certain nombre de points pour le rendement, pour la résistance à l'hiver, à l'averse, à des maladies. Donc, il y a là, dans les dispositifs d'inscription aux variétés, je dirais, des choses qui sont très intéressantes pour l'agriculteur ou pour le jardinier amateur, parce que pour les légumes, c'est la même chose. Et donc, ce n'est pas simplement des variétés qui sont plus. Sujettes à devoir être utilisées avec des produits phyto, etc. Non, vous avez vu, il faut que les critères sur la résistance aux maladies, la résistance à l'inverse, sur les valeurs d'utilisation, pour certains, c'est les teneurs en sucre, pour d'autres, etc., soient meilleurs que ce qui existe.
Donc, on l'a entendu, distinction, homogénéité, stabilité. Alors, Monsieur Manama, donc, on vient de l'entendre, ces tests ont une raison. Mais est-ce qu'il ne représente pas un peu un risque de favoriser les grands semenciers ?
Oui, tout à fait. En fait, la réglementation, la législation des semences, elle est née dans les années 50 et 60, dans un paradigme productiviste. C'est le même temps de la politique agricole commune de l'Europe. Il y avait les besoins de rebâtir les systèmes agricoles européens, rebâtir, on peut dire, la sécurité alimentaire en Europe. Et le législateur, quand il a fait la loi, il a dit « Ok, on doit orienter l'agriculture d'une façon productiviste ». Et la législation des semences même, elle est basée sur des critères industriels, on peut dire, qui sont des critères qu'il peut, peut-être, il a eu du sens de mettre ces critères dans les années 60, mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui où l'agriculture industrielle a des conséquences et un impact sur l'environnement, mais aussi sur la santé des produits et sur un autre groupe de questions qui sont liées à l'alimentation en général.
Et donc on voit que toutes ces nouvelles variétés, dont les OGM ou les hybrides, peuvent être très bien au niveau de la rentabilité, mais par contre au niveau humain, elles sont désastreuses. De plus en plus de fermiers n'arrivent pas à suivre, on les prive de leur matière première, en fait, de pouvoir ressemer du privilège paysan.
Oui, en fait, derrière ces typologies de semences, il y a une idée de la production agricole qui a toutes ces conséquences que tu as dit. Et la monoculture, par exemple, c'est emblématique. La majorité de ces semences homogènes et stables sont destinées pour une production monoculturelle et pour une production standardisée. Et dans une période de changement climatique, ça c'est très problématique parce que aussi les semences sont sélectionnées dans un environnement neutral. Mmh. Il y a quelqu'un qui parle d'un environnement avec des conditions confortables, par exemple avec des engrais, avec des pesticides et tout ça. Mais ce sont des semences qui, dans la majorité des cas, ne sont pas capables de s'adapter au terroir, de s'adapter à les différentes conditions locales. Parce que normalement, une semence, pour s'adapter à des conditions locales, il doit avoir une variabilité génétique plus large. Et ça a un problème avec l'homogénéité, par exemple.
Ah oui, voilà. Donc, quand on a des champs très homogènes, où on a tous les mêmes grains de blé sur les épis, forcément, il n'y aura aucune variation génétique possible. Donc, dans un sens, cette homogénéité est bien parce qu'elle garantit à l'agriculteur que tout ce qu'il va acheter a la qualité qu'on lui promet. Donc ça, c'est très bien au niveau publicitaire et marketing. Mais derrière, son champ, si les conditions climatiques ne le permettent pas, ben, son champ ne va pas pousser du tout, quoi. Parce que ça ne va pas s'adapter, quoi.
Mais le problème, c'est plutôt le fait que la législation, elle est basée sur ces critères-là et c'est discriminatoire pour tous les paysans qui produisent dans un cadre productif qui n'est pas industriel. C'est-à-dire, à la fin, c'est aussi le choix de l'agriculteur que s'il veut produire d'une façon industrielle, doit choisir une semence industrielle. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas du tout beaucoup de place si tu veux produire d'une façon agroécologique. C'est-à-dire que cette législation-là, elle ferme les portes à les alternatives agroécologiques. Et ça, c'est la question plus dramatique.
D'accord, donc peu d'alternatives. Ben, on va l'entendre tout de suite parce qu'on va se rendre à Arun. Donc, cette commune est perpétuellement survolée par les avions qui décollent de l'aéroport national de Zaventem. On s'en rendra vite compte. Donc, dans cette petite ville au bord de Bruxelles, on a rencontré Serge Perrebaum, un agriculteur wallon. Il va nous témoigner des problèmes rencontrés par son secteur.
En fait, bon, moi, je ne suis pas semencier, donc effectivement, je peux encore faire plus ou moins ce que je veux, parce que je travaille hors circuit, je dirais, mais avec des groupes d'achat, etc. Mais ce qui est plus difficile, c'est pour des associations comme Sabaï, comme Cocopédie en France. Ils ont des variétés qui sont très anciennes, qui appartiennent à l'humanité, hein, comme Cocopédie nous dit très bien, parce qu'ils sont en procès, avec l'État français, entre autres. Et eux, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on devrait payer des droits d'inscription à des catalogues officiels, alors que ces variétés existent depuis la nuit des temps? Et donc appartiennent à tout le monde. Nous, on est juste là pour les faire perdurer, quoi. Dans le temps, il y a des spécialistes, des jardiniers, qui s'occupent de les garder, de les conserver, de les transmettre pour les générations futures. Pourquoi est-ce qu'on devrait payer des droits et des taxes sur ça? C'est vrai que c'est pas logique. Avoir un prix digne pour pour son travail, c'est pas évident. Hein. Tous les agriculteurs sont subsidiés maintenant, s'il n'y avait pas les primes, ils seraient en faillite. Quoi. C'est bien pour ça que c'est un gros problème d'ailleurs. Mais donc en tant que petit producteur, nous on discute avec nos groupes, on leur dit ben voilà pourquoi est-ce qu'on ne gagne que 4 euros de l'heure. Même un ouvrier agricole en Belgique gagne au minimum 8 euros de l'heure. Pourquoi est-ce que nous, en tant que paysans, on gagne moins que ça? C'est pas normal. Donc voilà, nous on peut, quelque part on a la chance, on peut se le permettre, je veux dire, mais on le fait, on se bat pour qu'il y ait d'autres jeunes paysans qui puissent s'installer un jour et dire ben voilà, nous on a un revenu au moins de 8-10 euros de l'heure et on peut gagner notre vie et payer des études à nos enfants et payer un loyer et avoir un revenu digne de notre travail. Quoi. Et pour l'instant, on n'est pas encore. Quoi. On n'est pas encore. Et donc ça, on peut y arriver, je pense, avec des petits groupes de réflexion et avec les gens, parce que les gens sont bons en soi. Hein. Tout le monde cherche à être bien pour soi et sa famille et à son entourage. Donc si on réfléchit ensemble, on peut arriver à des grandes choses. Quand on écoute le professeur Belpomme, cancérologue français, qui a écrit l'appel de Paris et qui lui dénonce vraiment les problèmes de cancer et autres, parce qu'il n'y a pas que les cancers, il y a Alzheimer et compagnie, à cause de l'environnement empoisonné par l'industrie, que ce soit les pesticides, mais les autres molécules chimiques, que ce soit la pollution par le nucléaire, par les ondes électromagnétiques, enfin, il y a plein de polluants à cause de notre vie industrielle qui a fait qu'on a des progrès, c'est sûr, on a acquis certains progrès pour se dépasser, pour se nourrir, pour plein de choses, mais qui retombent sur nous. 75% des cancers. Donc voilà, on se trompe de cible en fait, on s'en prend, on fait la chasse aux vilaines salmonelles, et en même temps, ben, on élimine les derniers petits producteurs qui, eux, étaient très sûrs de leur production, parce que tous les cas d'empoisonnement, en Belgique aussi, hein, on a vu les vaches folles, etc., ça venait de l'industrie. Et donc, en s'en prenant aux petits producteurs, on élimine les petits producteurs, mais l'industrie, elle continue.
Et ce qu'on va faire, en fait, concrètement, donc nous, il y a un briefing sur l'action ici, avant de partir.
Mais la législation semences, le grand danger, c'est par rapport aux agriculteurs qui ne pourront plus reprendre, récupérer leurs propres semences. C'est déjà le cas maintenant. Un planteur de pommes de terre, il doit prendre donc ses plants chez un semencier certifié, puisqu'il faut que les patates soient indemnes du virus. Est-ce qu'on veut des pommes de terre indemnes de virus alors que les virus font partie de la vie, il y en a des méchants, il y en a des gentils. Voilà. Et donc le fait de reproduire ses propres plants, on n'a pas le droit en tant qu'agriculteur. Voilà. Et donc c'est ce qu'ils veulent faire, c'est avec les semences aussi, c'est tout doucement obliger les professionnels, donc les agriculteurs, à s'approvisionner chez les semenciers.
Et donc de perdre une certaine indépendance.
De perdre une indépendance économique, mais aussi une adaptation au sol et au climat local. Puisque la pomme de terre ou la semence de tout type de plante va s'adapter aux conditions, au terroir local, au sol, au climat, etc. Et donc le fait de nous empêcher de reproduire nos propres semences, pour moi c'est une atteinte double sur l'économie, puisque ça crée une dépendance, il faut de l'argent pour acheter, donc ça c'est sûr. Et puis il y a une adaptation de la plante au terroir local, comme partout chez moi, comme chez les autres. Et donc le fait qu'on peut garder nos propres semences, c'est important. Je vais donner un exemple, j'ai des salades qui se ressèment d'elles-mêmes, parce que moi je suis maraîcher, donc les salades se ressèment d'année en année, comme les bêtes, comme plein d'autres plantes, et bien ces salades ne seront pas mangées ou très très peu par les limaces. Alors quand j'achète des plants ou des semences d'ailleurs, elles se feront systématiquement, certaines années plus que d'autres, des années humides, etc., mais seront systématiquement plus mangées par les limaces. Pourquoi ? Parce que les semences qui sont nées chez moi sont adaptées à mon climat, à mon sol. Et donc c'est comme si les plantes qui étaient nées ici chez moi, elles avaient déjà elles étaient acceptées par les limaces. En tout cas, par la force des choses, les petits se font éliminer. Le système est trop coûteux et trop grand pour un petit de pouvoir continuer. Et donc d'office, la roue avance et elle écrase et elle élimine ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer dedans, c'est tout.
Des gigots, des frisons, des légumes, des bitumes.
Donc voilà, pendant ce petit reportage à Arun, nous avons été rejoints par M. Jean-Paul Judson. Monsieur Jean-Paul Judson, bonjour.
Bonjour.
Et par M. Philippe Lambert. Bonjour, M. Philippe Lambert.
Bonjour.
Donc voilà, on l'a entendu, le témoignage est assez clair. Les conditions d'accès à ces semences posent des problèmes aux paysans, ou en tout cas à une partie des paysans. Est-ce que ces législations peuvent représenter une perte d'indépendance ? Alors, je vais commencer par vous, M. Judson. Est-ce que est-ce que toutes ces lois sur les semences peuvent représenter une perte d'indépendance pour nos agriculteurs? On entend bien ici, il parle d'adaptation à son terroir qu'il n'y a pas quand il achète des semences industrielles.
Je pense que la question de l'indépendance des agriculteurs est souvent reliée à la législation en fait qui légifère sur les droits de propriété intellectuelle. Et l'accès des agriculteurs à des semences et leur capacité à reproduire ces semences d'année en année. Quand on parle de la législation semences dont on a parlé récemment, c'est-à-dire la commercialisation des semences, là on est sur une toute autre dynamique. On est sur une dynamique en fait d'accès à des variétés de qualité qui sont développées par des semenciers pour le bénéfice des agriculteurs. On est là sur un marché en fait d'offres et de demandes, et l'idée d'un semencier, c'est finalement de pouvoir donner à l'agriculteur la capacité à produire sur son territoire mieux.
En rachetant chaque année si possible.
En rachetant chaque année si possible, mais ça c'est pas juste une question de business, c'est aussi une question de trouver toujours des nouvelles solutions pour les agriculteurs qui ont des besoins très spécifiques. Et je veux dire, si ces variétés n'étaient pas adaptées aux conditions locales de l'agriculteur, l'agriculteur changerait de semencier, changerait de d'entreprise. Ou réfléchirait à lui-même à créer son propre matériel génétique.
Mais on l'entend, cette réflexion, elle est là. On l'a entendu par la bouche de Serge Perrebaum. Donc, lui, il considère que cette privatisation des semences et le fait qu'on vende de plus en plus d'hybrides qui sont pour certains types de plantes, par exemple pour le maïs, on va toujours vendre des hybrides qu'ils ne pourront pas ressemer. Donc c'est une véritable dépendance en fait aux semenciers, et c'est ce qu'ils reprochent le plus, parce que c'était un peu le privilège paysan qu'ils avaient avant. Donc est-ce que, je vais me tourner vers vous maintenant monsieur Lambert, est-ce que c'est envisageable de faire un peu un retour en arrière? Ivan Manama évoquait tout à l'heure le fait que ces législations avaient été pensées dans un tout autre contexte, qu'on sortait de la guerre 40-45, qu'il fallait une sorte d'agriculture performante, efficace.
Mais en toute chose, il faut regarder à qui le crime profite. Fondamentalement, c'est ça la question. J'adorerais d'entendre que le but des semenciers est de donner aux agriculteurs ce dont ils ont besoin. Ce que je constate, c'est que le but des semenciers n'a absolument rien à voir avec le don. Il s'agit bien de vendre. Il s'agit de vendre pour pouvoir faire du profit, pour pouvoir nourrir des actionnaires. Donc ça, c'est l'objectif de Monsanto, Syngenta, BASF, etc. Je veux dire, ils n'ont pas d'autre objectif. Alors, si pour faire du profit, il faut vendre des semences et s'assurer de la dépendance de ses clients, ce que toute grande entreprise essaye de faire, je veux dire, j'ai passé 22 ans dans le business, le but est de, on va le dire gentiment, fidéliser le client, de manière un peu moins gentille, de le rendre prisonnier des produits et services que vous offrez. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, je veux dire qu'on ne vienne pas nous faire croire que l'objectif des grandes entreprises de l'agro-business est de faire le bien de la planète. L'objectif de ces entreprises, et reconnaissons-le, je veux dire, c'est un objectif de profit pour leurs actionnaires. Et donc, en effet, les législations qui sont mises en place, ce n'est pas une question de contexte. Aujourd'hui, on est dans une situation où on essaye de limiter au maximum le nombre de degrés de liberté des acteurs du secteur ici de l'agriculture comme d'autres secteurs. Mais le but est de restreindre au maximum leur liberté de choix au nom, soi-disant, de la liberté de marché. Je veux dire, la première liberté, c'est en effet que les agriculteurs utilisent leurs propres semences et fassent le choix eux-mêmes, librement, des semences qu'ils souhaitent utiliser. Donc l'argument qui est utilisé pour réglementer les semences, et de nouveau, tout est dans le marketing, c'est de dire, mais braves gens, vous ne voudriez quand même pas ingérer de la nourriture qui serait éventuellement nuisible pour vous. Et donc, pour s'assurer que tous les produits qu'on va vous fournir sont absolument sûrs, eh bien, on va cataloguer, enrégimenter les semences qu'on peut vendre et donc forcément celles qu'on ne peut pas vendre. Et comme par hasard, les procédures qui permettront d'enregistrer ces semences sont des procédures tellement lourdes qu'elles ne sont accessibles qu'aux grands semenciers, aux grandes firmes de l'agro-business. Donc, clairement, l'objectif de ces réglementations est d'assurer la domination de marché au profit de 3-4 grandes firmes qui produisent des semences. Et donc, on n'est plus du tout dans une économie de marché. Ces gens vous prétendent qu'ils veulent favoriser la logique de marché, mais la logique de ces grandes entreprises transnationales n'est pas du tout une logique de marché, c'est une logique de domination, c'est une logique hégémonique. Et ici, l'objectif de la législation, c'est de leur assurer cette hégémonie. C'est pour ça, c'est pourquoi, évidemment, nous estimons que ces législations sont nulles et non avenues et devraient être absolument rejetées. Bon, pour l'instant, elles l'ont été. Je suis curieux de voir si le nouveau Parlement européen gardera la colonne vertébrale suffisamment raide face à ces intérêts.
Très bien. Je vais vous laisser répondre, M. Judson, à ces allégations, parce que vous représentez quand même les gros groupes, pas que les gros groupes, mais vous représentez les Monsanto, Syngenta, Pioneer, qui sont les gros groupes. Juste une petite remarque avant que vous ayez la parole. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'y vois un peu un conflit d'intérêts. On vend des semences très bien, mais vous vendez aussi tous les produits autour qui permettent de les cultiver. C'est-à-dire, Monsanto est connu pour son Roundup. Ils vendent aussi, comme par hasard, les semences qui y résistent. Bon, on ne les cultive pas chez nous, mais bon, il suffit de voir l'agriculture aux États-Unis. Il n'y a plus que ça. Et on se rend compte que maintenant, les plantes que le Roundup était censé éliminer commencent à résister, que donc ces produits ne servent plus à rien et qu'en plus, c'est hyper nocif. Ils ont été... donc leur publicité sur le Roundup qui disait qu'il était biodégradable a été interdite. Donc... Qu'est-ce que vous répondez à tout ça, Monsieur Judson ?
Ok, il y a pas mal de points. Je vais essayer de les prendre un par un. Donc d'abord, oui, nous représentons l'Association européenne des semenciers. Donc il y a effectivement les grandes entreprises. Il y a aussi un certain nombre de plus petites entreprises qui sont directement membres de notre association. Et à travers les associations nationales qui sont présentes dans les différents pays européens, on représente en fait indirectement 7000 entreprises qui sont actives dans le milieu du marché des semences. Et donc on parle là de la recherche, on parle du métier de sélection, donc création de nouvelles variétés pour les agriculteurs, mais aussi de production de semences, de multiplication de semences, et enfin de vente de semences aux agriculteurs. Donc là, il y a énormément d'entreprises qui sont impliquées dans toute cette chaîne semences en amont de l'agriculteur. Ouais. Et ensuite, pour répondre un petit peu à M. Lambert, parce qu'on oppose souvent la logique commerciale des entreprises semencières et des entreprises de l'agro-business, disons, et la logique peut-être un peu plus... je ne sais pas, humanitaire de l'agriculteur. Je pense que l'agriculteur aussi a une logique commerciale et il a vraiment son rôle à jouer dans cette chaîne.
Contrairement aux grosses industries semencières, les agriculteurs doivent être aidés. Ils vivent avec 4 euros de l'heure et ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On a 10 fermes qui ferment par jour rien que sur le territoire européen, alors que les chiffres de Monsanto et Syngenta explosent.
Exactement.
Donc, dans un sens, ils ont une logique commerciale, mais ils sont floués.
On peut dire que les chiffres explosent de Monsanto et Syngenta, mais après, il faut aussi garder toute proportion. Si on compare le turnover de ces entreprises-là par rapport à d'autres entreprises qui existent sur d'autres marchés, ou même sur le marché général de l'agrobusiness, on n'est pas non plus sur des chiffres faramineux.
Non, mais enfin, écoutez, qui aujourd'hui, lorsque vous faites la somme de la valeur ajoutée entre le champ et l'assiette, qui part avec la grosse part de la valeur ajoutée? Ce sont les firmes de l'agrobusiness, ce sont les géants de l'agroalimentaire et ce sont les géants de la grande distribution. Qui est squeezé par des gens comme ceux que vous représentez? Parce que vous prétendez représenter les petits, on a bien compris pour qui vous roulez. Je suis depuis assez longtemps dans la législation européenne pour savoir que les fédérations du business, quel qu'il soit, défendre les gros et jamais les petits. Jamais. Et donc, fondamentalement, ce que vous faites, c'est vous assurer de pouvoir extraire une rente, parce que si vous deviez avoir des produits qui sont en compétition avec les semences que les agriculteurs peuvent produire eux-mêmes, eh bien, vous n'auriez pas les mêmes moyens de pression sur eux. Ce que vous voulez, c'est assurer une rente de situation. Ce que nous voulons, c'est une logique de marché compétitive. Si un agriculteur est capable de produire ses propres semences et donc de ne pas être dépendant, et que pour lui, c'est une meilleure alternative et lui assure un profit plus grand, eh bien, tant mieux, c'est la logique de marché. Et en effet, il ne vous est pas assuré de pouvoir lui fourguer vos produits. Et donc, voilà, c'est ça. Bien souvent, vous prétendez défendre le marché. En fait, vous défendez la rente de situation des firmes hégémoniques. Ce ne sont pas ces gens-là qu'on veut défendre.
Je vais laisser peut-être Ivan Manama parler, lui qui s'est encore bien tu ces dernières minutes.
Oui, et je voudrais rajouter quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est important de considérer la réglementation sur la commercialisation des semences comme une des réglementations qui impacte sur la dépendance ou indépendance des agriculteurs. Et c'est vrai que la législation sur les droits de propriété intellectuelle et des autres législations comme la politique agricole commune qui va promouvoir une certaine typologie d'agriculture et tout ça ont un impact sur la biodiversité. Et la réglementation européenne des semences a un impact sur la biodiversité négative, à notre avis, et il y a des études sur ça.
On va en parler de la biodiversité après. Je vous coupe, on va écouter un petit morceau de musique maintenant. Et la biodiversité, justement, c'est le thème suivant, après la musique. Ça va ? Je vous donnerai la parole à ce moment-là. Donc, on va écouter Strange Fruit de Fabrizio Cassol.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree.
De retour sur Radio Campus pour les graines du pouvoir. Nous vous accompagnerons jusque midi pour essayer de décrypter les lois européennes sur les semences. Donc, comme nous l'avons entendu en première partie d'émission, de nombreux reproches sont faits à ces règlements et au catalogue des variétés. Mais les arguments pour le défendre existent aussi. Nous allons continuer de creuser pour vous aider à saisir les tenants et aboutissants des règlements semenciers européens. Donc une des attaques récurrentes qui est revenue lorsque je préparais cette émission, c'était que le catalogue des variétés est un frein au développement de la biodiversité. Donc on y arrive, monsieur Manama. Donc je vous propose de partir près du quartier Madou à Bruxelles, rencontrer Andrea Ferrante, un cultivateur bio-italien pour qui la situation est vraiment à améliorer.
Et la directive européenne que nous avons aujourd'hui, il ne garantit pas nos droits paysans aux semences paysans, qui est garanti en principe par les traités internationaux sur les ressources phytogénétiques. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile, avec un panorama très différent, pays par pays, de la législation. Et donc aujourd'hui, nous sommes en face à une perte de biodiversité énorme, une concentration du marché des semences, et une véritable difficulté d'accès aux semences paysans, et aussi pour les paysans de faire leurs propres semences. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation très grave, où il y a des différentes situations de résistance autour d'Europe, et c'est pour ça que nous avons besoin d'un règlement qui nous reconnaît finalement nos droits.
Les droits des paysans vont donc de pair avec une autonomie vis-à-vis des industries. D'après Andrea Ferrante, cet agriculteur bio-italien, le catalogue est une menace, un problème qu'il faut résoudre au plus vite.
Bon, il faut dire que jusqu'à il y a 60 ans, il n'était pas un problème. Ça veut dire que les semences étaient faites par les paysans. Ça veut dire que c'est tout à fait quelque chose de nouveau, que la production des semences a été... fait pas par les paysans. Ce sont les paysans qui, dans les 10 000 ans de l'agriculture, ils ont toujours fait les semences. C'est leur activité, c'est partie de l'activité de base, faire les semences pour ta production. Donc nous sommes partis vers une spécialisation du modèle agricole. Dans ces spécialisations du modèle agricole, les paysans, ils ont été écartés de la production des semences, de plus en plus. Et donc, la spécialisation nous donne moins et moins la possibilité de faire les semences au niveau de la ferme. Et en plus, pour soutenir un modèle agro-industriel qui va vers la spécialisation, il y a tout un tas de règles sanitaires ou bien des règles d'accès au marché qui ont favorisé la production semencière de l'industrie semencière contre la production des semences des paysans. Donc ça, c'est la situation actuelle, qui répond à un modèle, que c'est le modèle agro-industriel, qui veut être le modèle dominant dans l'agriculture européenne. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, et on est en train de le célébrer, l'année internationale de l'agriculture familiale, on a une agriculture familiale paysanne qui est majoritaire en Europe. Et donc nous, on doit regagner notre possibilité de contrôle de la semence. Parce que sans le contrôle de la semence, il est clair que le modèle de l'agriculture paysan est affaibli. Parce que les semences, c'est à la base du modèle de production. Si tu as des semences qui sont des OGM ou bien des semences qui ont besoin de beaucoup d'intrants, de beaucoup d'engrais chimiques, de beaucoup d'eau, il est clair que tout ton modèle est affecté. Et donc c'est pour ça que pour nous c'est tellement important regagner le contrôle des semences, parce que si on regagne notre contrôle des semences, on peut défendre notre modèle et développer notre modèle d'agriculture paysanne durable.
Une divergence philosophique émerge donc, mais comment utiliser ce catalogue de façon bénéfique? Ces questions nous taraudent encore, mais du côté d'Andrea Ferrante, la situation est claire, les règles doivent changer.
Mais le problème du catalogue sont les critères pour être inscrit au catalogue. Les critères pour être inscrit au catalogue est que la variété doit être, par exemple, être stable. Et ça veut dire que tu es en train d'éliminer un montant de variétés. Donc, les problèmes, plutôt que les catalogues, c'est les critères pour être inscrits au catalogue. Non? Alors, ces types de critères sont contre la biodiversité. Ça, c'est évident. C'est pour défendre la propriété intellectuelle. Et ça, c'est un peu pourquoi nous, on est contre ce type de catalogue. Sans doute, il faut aussi donner une idée claire sur le fait que les semences doivent avoir des caractéristiques importantes. On disait avant la germination. Je suis un paysan, j'achète des semences et ces semences doivent pousser. Ça ne suffit pas que c'est une semence. Il doit pousser parce que sinon je perds de l'argent. Et donc, ce type de critères doit être là. Comme garantir des qualités, des bases pour des semences paysans, ça c'est le grand défi pour demain.
Face à ce discours, nous nous devions de croiser les propos avec ceux des autorités belges. Nous profitons donc de la douceur printanière pour nous rendre au ministère régional de l'agriculture à Namur, la capitale wallonne. Nous y rencontrons Dominique Perrault, qui est en charge des législations semences pour le ministère. Pour lui, la réalité est un peu différente.
Le fait qu'il y ait éventuellement une diminution de la biodiversité cultivée, ce n'est pas le catalogue en lui-même, c'est beaucoup d'autres facteurs autour du catalogue. Parce que surtout quand on parle de diversité, on fait souvent appel à ce qui se passait avant, quoi, hein, à ce qui se passait avant. Comme si avant, l'agriculture, c'était une forme de paradis, quoi, où tous les agriculteurs avaient leur variété bien adaptée, qui produisait bien, etc., etc. Bon, je suis peut-être un peu caricatural, je ne suis pas non plus historien, mais c'est vrai que avant le 19e siècle, hein, l'agriculture était totalement biologique, il n'existait pas de pesticides, il n'y avait pas de catalogue, bien sûr, donc toutes les variétés, c'était des variétés paysannes. C'est quand même dans ces périodes-là qu'on a aussi connu un certain nombre de disettes, pour ne pas dire de famines, quoi. Bon, il ne faut pas lier l'un et l'autre, mais ce n'est pas non plus un paradis perdu quelque part, où avant tout allait bien, C'est vrai qu'au niveau d'un territoire, probablement du point de vue légumes, il y avait une très grande variété de légumes, une beaucoup plus grande variété maintenant de légumes sur un territoire. Mais est-ce que les gens, à un endroit donné, consommaient une plus grande variété? C'est pas dit. Ils consommaient ce qu'il y avait dans leur entourage, mais de là à avoir des tomates qu'ils ne cultivaient pas, bah, oui, il y avait probablement une grande diversité au niveau d'une région, mais au niveau de l'individu, au niveau d'un village, il n'y avait probablement pas une aussi grande variété que ça. Une des conséquences aussi de l'agriculture moderne, qui n'est pas la conséquence de l'agriculture, mais la conséquence de l'évolution de la société, c'est que aussi les fruits, les légumes et tout ça voyagent beaucoup plus. Et donc, des fruits et des légumes que nos ancêtres n'avaient jamais vus, ben, ils viennent parce que y a des transports. Maintenant, ça pose d'autres problèmes. Donc, les choses ne sont pas aussi simples que ça, quoi. Moi, je ne veux pas croire qu'avant, il y avait un paradis agricole et que maintenant, c'est l'enfer. C'est un peu caricatural. Et que l'enfer est dû essentiellement au catalogue. Là encore, certainement pas. Certainement pas.
Donc, M. Manama, je vais vous rendre la parole. La biodiversité menacée par ces législations et surtout par le catalogue et cet accès, en fait, aux semences pour rentrer dans le catalogue.
Oui, et ce système-là a des problèmes. Ce sont des problèmes liés au fait qu'il y a des barrières à l'entrée d'une typologie des semences qui sont des semences pas produites dans un cadre industriel. Et cette barrière à l'entrée a une conséquence aussi sur la biodiversité, c'est évident. Et il y a aussi des études commissionnées pour la FAO, l'Organisation de l'Alimentation et de l'Agriculture Internationale des Nations Unies, qui dit que les systèmes de réglementation des semences, comme on l'a connu aujourd'hui, ont eu un impact sur la biodiversité. On a aussi des études sur l'Europe ou sur les cas du blé en France. Et la question, donc, c'est de... Il faut retenir ça. Il faut retenir, si on a une réglementation, on doit voir c'est quoi l'impact de la réglementation sur les droits des paysans, comme disait M. André Ferrante de la Via Campesina, mais aussi on doit voir en général l'impact de la législation sur les secteurs informels. Parce qu'en fait, le secteur informel des semences a toujours joué un rôle très importante dans la conservation de la biodiversité. C'est-à-dire, les simples faits que les agriculteurs vendent des semences entre eux, sans intermédiaire, ça c'est une petite chose, mais c'est très importante pour la conservation in situ et très importante pour l'adaptation locale des semences. Par exemple, dans les débats de la nouvelle réforme de la législation des semences, il y a ils sont en train d'essayer d'élargir les champs d'application de la législation des semences et où on a un passage d'argent dans un échange des semences, ça doit rentrer dans la législation et ça touche les droits des agriculteurs et ça touche un aspect très important que c'est le secteur informel que la FAO a parlé beaucoup, en particulier dans les cas des pays africains où le secteur informel joue vraiment un rôle important. Et en fait, joue un rôle important aussi pour l'industrie, si on veut. C'est-à-dire, dans le secteur informel, on trouve la diversité qu'on a besoin pour le changement climatique, mais pour la sélection aussi des nouvelles variétés. Que ça, c'est important. C'est quoi la réglementation des semences? Et ça touche comment les secteurs informels et les droits des paysans.
D'accord. Et donc, M. Judson, vous allez sûrement pouvoir nous répondre que vous produisez de plus en plus de variétés, que, en gros, le catalogue, pas le catalogue européen, mais le catalogue proposé par les sociétés que vous représentez est de plus en plus vaste, et que donc, vous pouvez proposer une espèce de biodiversité. Après, c'est le choix aussi des agriculteurs.
En fait, vous me parlez de biodiversité. Moi, je vous parle simplement d'agriculture. Donc, nous, on développe des variétés qui sont basées sur un travail de sélection. Ce travail de sélection est basé sur un certain nombre de ressources génétiques, de gènes, de variétés qui peuvent être nouvelles ou anciennes. Donc, il y a tout un travail, en fait, qui prend une dizaine d'années, une quinzaine d'années, selon les espèces, qui, au final, aboutit à des variétés qui sont adaptées à un marché. Voilà, nous, on vous parle de marché. Après, on nous parle de biodiversité, on nous dit qu'il faut élargir les règles pour permettre à plus de biodiversité. Mais je ne pense pas que ce soit de ça dont on parle. En fait, on parle encore de marché. C'est-à-dire qu'il y a certaines organisations qui ne se retrouvent pas dans les règles existantes parce qu'elles n'arrivent pas à accéder à leur marché, qui fonctionne avec des règles un petit peu différentes. Donc il s'agit en fait de trouver une adaptation dans les règles de marché aujourd'hui pour permettre à ces autres marchés de mieux exister. Il y a aujourd'hui des possibilités pour ces marchés d'exister, mais elles ne sont peut-être pas encore assez abouties. Donc en fait, encore une fois, on nous dit oui, c'est au nom de la biodiversité. Je n'en suis pas persuadé. Derrière ces organisations qui disent qu'elles travaillent pour la biodiversité, il y a des vraies entreprises qui ont des vrais marchés avec des vrais clients. Et c'est ça qui les intéresse. On n'est pas sur une dynamique de « nous faisons ça pour le bien de la biodiversité », comme d'ailleurs les semences paysannes. Ils ne font pas ça pour le bien de la biodiversité. Je pense que la biodiversité, c'est une autre politique, c'est une autre dimension. Et si on veut réellement de la biodiversité dans les champs, alors il faut trouver une politique agricole qui permette de faire ça. Mais aujourd'hui, un agriculteur ne va pas faire pousser quelque chose dans son champ pour le bien de la biodiversité. Il va le faire parce qu'il y trouve un certain intérêt, lui.
Non, mais la biodiversité peut naître du fait qu'on lui laisse justement le fait de créer des polycultures et pas des monocultures de colza intensives sur des centaines d'hectares. Quand on voit par exemple simplement en France, la moitié de la surface du colza cultivée donc dans le pays, c'est une seule variété qui est la variété de Monsanto. On se dit que là, effectivement, on a zéro niveau biodiversité. On a une variété sur des kilomètres et des kilomètres carrés. Là, certes, il y a une réalité économique, mais il y a aussi une réalité désastreuse qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est que si on cultive tous la même chose, dès qu'il y aura une catastrophe climatique, il n'y a rien qui va s'adapter et on l'aura juste dans l'os. Donc on va continuer et on va écouter votre collègue, M. Garlich van Hessen. Et donc j'ai été le rencontrer près de la place du Luxembourg. Et je voulais d'abord comprendre pourquoi l'European Seeds Association militait pour maintenir ces standards aussi élevés pour les tests DHS. Voici la réponse de M. Van Hessen.
If you would be a housewife and you would go shopping,
si vous êtes une ménagère et que vous allez faire vos courses, vous voulez acheter des pommes de terre. Vous voulez choisir entre 20 types de pommes de terre. Mais dans un sac de pommes de terre, vous voulez être sûr qu'elles se préparent toutes de la même manière et qu'elles ont toutes le même goût. C'est pourquoi vous voulez une homogénéité dans un champ. Nous ne voulons pas d'homogénéité pour le développement des plantes partout dans le pays. La diversité génétique est la base aussi pour le progrès génétique. C'est uniquement quand vous disposez d'une base génétique large que vous pouvez en fait développer, que vous pouvez créer de nouveaux croisements, que vous pouvez trouver de nouvelles caractéristiques et donc améliorer les variétés existantes. Donc oui, nous voulons l'homogénéité au sein d'une variété, mais nous ne voulons pas d'homogénéité entre les variétés.
Donc après, on a abordé un peu le thème qui fâche, celui des OGM. Et voilà les arguments de Garlich van Hessen. Sa réponse est aussi assez intéressante.
Our principal position is where technology is safe.
Notre position de principe est quand une technologie est sûre et que les produits sont sûrs. Et pour cela, nous avons des procédures d'autorisation et des autorités compétentes comme le Service de sécurité alimentaire européen. Que nous avons créé spécifiquement en Europe pour nous assurer que toute nourriture produite en Europe est saine. Si ces organisations approuvent un produit et garantissent que c'est sain pour la santé et l'environnement, on devrait laisser le choix aux semenciers et aux fermiers de l'utiliser. Si au final, vous, moi, les consommateurs n'achètent pas le produit, il disparaîtra très probablement du marché. Mais l'expérience que nous avons avec cette technologie ailleurs dans le monde suggère que ce n'est pas le cas. Cela deviendrait probablement un outil pour l'agriculture. Les OGM ne sont pas la solution miracle pour la sécurité alimentaire.
Food safety or anything
ils sont un
else.
Élément, ils peuvent jouer un rôle pour résoudre
They
certains problèmes spécifiques, mais ce n'est pas la seule solution.
Donc voilà, on l'a entendu, pour les OGM, oui. Donc je lui ai fait part quand même de ce que les agriculteurs m'avaient tous dit quand je leur avais parlé des OGM, c'est-à-dire... Oui, mais nous, on ne veut pas du tout être contaminés par des OGM qui viennent d'un champ d'à côté. Et donc, voilà, à nouveau, en lui exposant ça, écoutez ses arguments. Ils peuvent surprendre.
I think it's important to remind ourselves that in open field
Je crois qu'il
farming,
est important
there is no
de rappeler
such thing as
que dans les cultures ouvertes, il n'existe pas de 100% pur. C'est impossible.
Any farmer... has to live with the fact that
Tous les fermiers doivent accepter le fait que leur voisin va cultiver une autre variété, qu'il y aura une pollinisation croisée, ces choses arrivent. Et pour ces situations, nous avons des règles depuis longtemps qui vérifient la pureté de la variété. On atteint des niveaux très élevés, mais jamais 100%. Ça dépend des espèces et de la difficulté à atteindre un bon taux de pureté. Ce que nous avons ici, c'est que nous sommes face à une requête d'un groupe de fermiers qui dit « Je veux une garantie que mon voisin ne me contaminera pas. » Alors que l'autre partie qui veut utiliser cette technologie n'en a pas le droit. Donc je pourrais aussi dire « Je veux cultiver des OGM et je ne veux pas être dans les environs d'un fermier bio qui ne va pas pulvériser son champ. Et j'aurai toutes ces mauvaises herbes dans mon champ et ça je n'en veux pas. » Ce ne serait pas juste non plus. On doit vivre avec le fait qu'il existe différents modèles d'agriculture et qu'ils ne peuvent coexister que si on trouve des règles appropriées. Ces règles peuvent être strictes, mais elles ne peuvent pas l'être au point d'exclure un modèle agricole. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Europe. Nous exigeons une tolérance zéro pour les OGM, ce qui est l'expression d'un non-sens politique.
Donc, Monsieur Lambert, vous voyez sourire pendant que Monsieur Gary Van Essen parlait. Qu'est-ce qui vous faisait sourire ?
Oh non, mais c'est vraiment trop drôle. En fait, je retrouve là bien les méthodes habituelles des lobbies actifs en Europe. Et c'est grosso modo la technique du plus c'est gros, mieux ça passe. Je veux dire, ce monsieur prétend que nous avons des instances qui veulent assurer la sécurité alimentaire, ou nous avons l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire. Et figurez-vous que cette agence, ces comités scientifiques sont peuplés de gens qui sont stipendiés par l'industrie. C'est un fait. La directrice générale de l'EFSA a dû démissionner parce qu'elle avait omis, fort opportunément, de déclarer le fait qu'elle était stipendiée par l'industrie, qu'elle l'avait été et qu'elle l'était encore. Et donc, en réalité, il se cache derrière un langage technocratique pour nous dire « Dormez en paix, bonnes gens, il n'y a pas de problème, tout est assuré ». Or, chacun sait que les études qui sont faites sur l'innocuité des OGM sont, sur le plan scientifique, du bullshit à l'état pur. À l'état pur. Et donc, il n'y a absolument aucune sécurité scientifique par rapport à ce que ces pseudo-études nous racontent. C'est ce que l'étude de Serralini, qu'on a beaucoup contestée aussi, a bien démontré. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, en matière de sécurité alimentaire, de l'expertise scientifique indépendante des milieux qui veulent vous fourguer leur saloperie. Premier élément. Deuxième élément, quand il défend le droit à une diversité des modèles, je rappelle quand même que nous vivons dans un monde qui est soumis d'abord et avant tout aux lois de la nature. Et que donc, aller dire, eh bien, les lois de la nature doivent cohabiter avec des lois fabriquées par les humains, ben non, je veux dire, il y a une hiérarchie entre les deux. Il y a une hiérarchie entre les deux. Et entendre de la part de ceux qui veulent imposer un modèle hégémonique, qu'ils veulent de la diversité et qui se sentent brimés par la législation, je trouve ça juste un peu gros, quoi. Aujourd'hui, ils veulent absolument un modèle agricole où il soit hégémonique, où il n'y ait plus de place pour autre chose. Ils ne veulent pas de concurrence, ils ne veulent pas la possibilité que des fermiers puissent échanger des semences et puissent quelque part être indépendants d'eux. Ils veulent organiser la dépendance. Et donc tout ça au nom de l'avancée scientifique, etc. Je voudrais quand même vous rappeler un épisode. Nous étions juste après la Deuxième Guerre mondiale et on a découvert une méthode absolument remarquable et révolutionnaire pour finalement mettre un terme aux incendies des bâtiments, ça a été l'amiante. Formidable, extraordinaire, un matériau qui va nous permettre de rendre nos bâtiments beaucoup plus sûrs. Qu'est-ce qu'on découvre 30 ans après ? Après que les principales firmes qui produisaient de l'amiante aient tout fait pour camoufler les effets de leur substance, on découvre que c'est une substance hautement cancérigène et qu'il n'aurait jamais fallu rentrer là-dedans. Évidemment, pour le démontrer, il aurait fallu mener des expérimentations longues, coûteuses, évidemment, mettre en péril les profits potentiels des entreprises concernées. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
On n'a pas l'expérience avec les OGM.
Mais bien sûr que non, bien sûr que non. De nouveau, chercher à qui le crime profite. Ces gens ne veulent pas le bien de l'humanité, ils veulent le bien de leurs actionnaires. Et je respecte les entreprises qui veulent faire du profit. Je dis simplement que, eh bien, il faut accepter la compétition. Et quand ils disent « on veut que la ménagère ait le choix », ils ne le veulent pas. Parce que lorsqu'on dit « eh bien, nous allons donc étiqueter les produits qu'on vend, notamment sur le fait qu'ils sont sans OGM ou avec OGM. Ah non, surtout pas! Surtout pas! Il ne faut pas que le consommateur ou la consommatrice sache ce qu'elle achète. Et donc, je vous rappelle qu'une des bases de l'économie de marché, c'est la transparence de l'information égale et équilibrée de tous les acteurs du marché. Et donc, on voit bien que ces firmes se battent pour éviter qu'il y ait de la transparence, pour éviter le libre choix. Et donc, c'est organiser la soumission non seulement des agriculteurs, mais des consommateurs et de toute la société à des intérêts privés qui veulent s'affranchir finalement à la fois des lois de la nature et des lois de la société. Et je suis désolé, mais entre ces gens-là et nous, il n'y a pas d'accord possible. Monsanto est une firme qui appartient réellement à la catégorie des gangsters. Je veux dire, elle a manipulé, payé des experts, camouflé. Elle continue à vendre aujourd'hui des produits toxiques, reconnus comme toxiques aux États-Unis, reconnus comme toxiques en Europe, mais évidemment fort opportunément encore autorisés en Amérique latine, dans les Caraïbes, etc. Ils le font en pleine connaissance de cause. Ce sont des gangsters dont le but est clairement d'assurer le profit de leurs actionnaires par tous les moyens possibles et imaginables. Je suis désolé, mais les mafias ne font pas autrement.
Monsieur Manama, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, je vais être très vite. La question, c'est intéressant d'écouter Garlic Von Essen et dire un petit peu la coexistence, c'est impossible. C'est-à-dire, il va avoir un croisement. Et ça, c'est très problématique. Par exemple, l'agriculture biologique n'accepte pas d'avoir des OGM. Comme ça, si t'es un producteur bio, il t'est contaminé pour des OGM, ça a un impact. Jusqu'à aujourd'hui, l'Europe, on peut dire, elle s'est gardée d'avoir ce problème parce qu'on n'a pas des OGM. On a seulement une typologie d'OGM et des cultivés principalement dans 4 pays. Mais si on a une autorisation, ça va avoir un impact sur la contamination. Et on doit considérer ça parce qu'on va fermer les portes à une grande opportunité, que c'est l'agriculture bio. La deuxième chose, c'est quand on parle des modifications génétiques en général, on doit considérer l'impact social de ces technologies. Et pour considérer l'impact social, on doit comprendre c'est quoi les cadres légaux de ces technologies. Et les cadres légaux de ces technologies, c'est les brevets. Et les brevets dans l'agriculture ont un impact incroyable. Et si on va dans les États-Unis, où l'introduction de la soja, je crois que c'était 96, et aujourd'hui, tu trouves 90% des soja dans les terrains, dans les caissons, avec les gènes de Monsanto dedans. Comme ça, on n'a pas opportunité pour les bio là. C'est coupé. Et comme ça, on doit considérer ça. Et dans l'ESA, en fait, il y a un débat. Mais il faut avoir une clarté. Si on ne change pas les cadres légaux des modifications génétiques, on ne peut pas parler de ça. En plus, comme je disais avant, on n'a pas vraiment une politique du risque, une politique d'évaluation de la santé qui sont, à mon avis, est bien mis en Europe. Comme ça, on va. C'est une nouvelle discussion parce qu'on parle d'autoriser des nouvelles OGM en Europe et on doit considérer l'impact social, les cadres légaux et toutes les choses que je te dis avant.
Alors, monsieur Judson, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Vous, votre position sur les OGM, j'imagine que c'est la même que monsieur Von Hessen. Si on n'a pas de preuves que c'est mauvais,
c'est que c'est bon.
On termine sur les OGM ou je peux terminer plus largement. Je veux dire, on n'est pas un lobby pro-OGM. Hein. Je veux dire, les OGM, c'est une partie des choses avec lesquelles on travaille, mais je ne vais pas être la personne qui va défendre les OGM particulièrement. Moi, je voulais juste dire que je pense qu'il y a une grande méfiance à l'encontre des entreprises, notamment dans le milieu agricole. Je pense qu'au niveau des politiques, il y a une méfiance. Au niveau de la population, il y a une méfiance.
Bien sûr.
Et je pense que ce qui est assez ironique dans tout ça, c'est que le plus nous avons de la transparence, le plus nous avons d'étiquetage, le plus j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment de méfiance.
Refuser l'étiquetage.
Non, pas du tout.
Refuser sur tous les dossiers. Vous
non, pas du tout. Alors, au contraire, justement, sur la législation semences, on est vraiment ouvert à cette transparence. C'est-à-dire qu'on est ouvert à des contrôles officiels, on est ouvert à des tests officiels, on est ouvert à toutes sortes d'informations sur les variétés. Et nos opposants nous disent non, c'est trop. Il faut beaucoup moins de tout ça. Et nous sommes là, non, c'est super important de garder un haut critère.
Il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire sur les semences, il y a des problèmes de sécurité alimentaire sur les OGM. Évidemment, vous voulez de la transparence là où il n'y a pas de risque, vous ne voulez pas de transparence là où il y en a, évidemment. Défendez des intérêts particuliers, monsieur, c'est bien clair.
Le mot de la fin, l'avenir dira la trajectoire à prendre pour l'agriculture européenne. D'un côté, une approche qu'on qualifiera de plus durable, plus douce, plus en phase avec la réalité des petits paysans, et de l'autre côté, une grande agriculture qui fonctionne sur la rentabilité, la fiabilité, peut-être même en dépit de l'histoire familiale et artisanale de l'agriculture. Donc un tout grand merci à mes trois invités d'être venus répondre ce matin à cette émission. Et un tout grand merci à Alice de Batty, Gaëtan Legras, Dimitri Texera, Romain de Moustier. Et sans oublier évidemment la régie avec monsieur Philippe Delchambre qui a tenu les ficelles. Bonne journée sur Radio Campus.
Tu crois que le recteur est la dernière partie du gros intestin ?
Tu crois que le Monténégro est un club échangiste africain ?
Tu crois que la reine Fabiola a le même toiletteur que son chien ?
Pour tout savoir, Radio Campus
92.1.